Bonjour chers amis, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons étudier Daf Kouf Samer Zayin, la page 167 du traité Baba Batra. Nous nous trouvons à la troisième ligne de la page, trois mois avant la fin de la ligne, dit la Gemara. Amar Abaye, dit Abaye, Hayman de Ba'e le Mehve Hatimot Yade Bebedina. Celui qui désire montrer ses signatures au tribunal, afin de que le tribunal puisse comparer sa signature et la signature qui est, sa signature avec qu'on sait que lui il a écrite et avec la signature d'un shtar d'un endroit d'un acte écrit où il aurait signé pour vérifier que c'est effectivement la même signature. Donc quelqu'un qui veut faire sa signature quelque part, écrire son nom, à l'époque la signature essentiellement se faisait en écrivant le prénom et le nom du père, un tel fils de un tel. Donc celui qui veut faire pour vérifier s'il s'agit de la même écriture, l'olihve besof megilda, il ne faut pas le montrer, l'écrire à la fin d'un papier, c'est-à-dire il faut l'écrire tout en haut du papier, la première ligne. Pourquoi? De crainte que quelqu'un d'autre va trouver ce papier, et s'il y a de l'espace depuis le début du papier jusqu'à la signature, celui qui va trouver ce papier, si ce n'est pas quelqu'un de droit, il risque d'écrire en utilisant le prénom de celui qui a signé. Moi, un tel, je dois tant et tant d'argent à un tel. Et il y a la signature, voilà, de celui qui a signé. Donc il sera obligé, après, comme ça, il pourra lui soutirer de l'argent sans droit. Et donc c'est pour ça qu'il doit le faire. Donc, dit la Gemara, Dilma Mashkahla Acher, de peur que quelqu'un d'autre va trouver ce papier où il y a sa signature, Vekativ Demasik Bezouzé. Et celui qui va trouver, il va écrire que celui qui a signé, il lui doit de l'argent. Or, ça marche s'il y a la signature de quelqu'un, s'il y a quelqu'un, même s'il n'y a pas de témoin, mais s'il y a quelqu'un, on voit sa signature, ou il y a écrit qu'il s'engage à payer, c'est bon. Ça s'appelle comme une reconnaissance de dette. Vetnan, il y a une Mishnah qui nous dit, Hotzi alav ktav yado sheu hayavlo. Si quelqu'un, il arrive et il amène comme preuve contre un emprunteur, il arrive contre son prochain et il dit, voilà, j'ai une preuve que tu m'as prêtée. Et c'est toi qui as signé, on voit ton écriture à toi et ta signature à toi. Alors même s'il y a simplement que sa signature, Gove minechasim benechorin, ça suffit. Et le prêteur, il pourra récupérer des biens de l'emprunteur, en tout cas des biens que l'emprunteur il a. Il ne pourra pas récupérer des biens que l'emprunteur il aurait vendus entre-temps, mais juste des biens qui existent chez l'emprunteur. Point. D'ailleurs, on raconte l'histoire, je crois qu'il s'est passé avec Raphaïm Kanievski, qu'un jour il était chez le médecin pour vérifier, parce que je ne sais plus si c'était un problème de vue ou un problème de... une question de peut-être sa main qui tremblait. En tout cas, le médecin lui a demandé d'écrire quelque chose sur un bout de papier. Et donc lui, il a écrit, peut-être, il a écrit un verset. Ou un verset, ou alors il a écrit il a écrit quelque chose. Le médecin lui a dit, tout le monde en général, tout le monde écrit son prénom et son nom. C'est ça ce que les gens, ils ont l'habitude. Le rabbin a dit, mais j'ai pas le droit, c'est interdit. Alors, s'il avait écrit ça tout en haut de la page, sûrement ça aurait été permis. Mais là, si on lui a passé un papier, s'il devait écrire au milieu du papier, donc il ne pouvait pas. Donc il dit, c'est ça, parce que de peur, il faut pas laisser un bout de papier où il y a son écriture, où il y a sa signature, c'est interdit. Sauf si on écrit tout en haut, alors là, dans ce cas-là, c'est permis. Raconte justement la Gemara à ce propos une histoire. Haou Basbina data le kami de Abaye. Il y avait un récepteur d'impôt qui est arrivé auprès de Abaye. Amarle, alors ce récepteur d'impôt a dit à Abaye, il lui a dit s'il y a des fois des érudits, que eux ils arrivent et qu'ils ont des droits de ne pas payer d'impôt. Il suffit vous que Rabbi Abaye, vous allez m'écrire, me signer que vous savez qu'un tel il ne doit pas payer des impôts et je lui rendrai quitte de payer ses impôts. Maintenant, pour que je puisse me rappeler c'est quoi votre signature à vous, Abaye, est-ce que vous pouvez me l'écrire sur un bout de papier que je vais la garder chez moi? Alors Abaye, il a écrit et il a noté sa signature tout en haut du papier. Et le récepteur d'impôts, il essayait de tirer la signature de Abaye. Il essayait de tirer le papier afin que Abaye n'écrive pas la signature tout en haut, mais laisse un petit espace. Alors Abaye, il a compris pourquoi c'était, parce que cet homme-là, il voulait justement qu'il y ait une signature avec un petit espace au-dessus, et comme ça, il pourrait écrire ce qu'il voudrait. C'est ce que la Gemara raconte. Haou Baz Bina, il y avait un récepteur d'impôts, Deatal et Kamele Abaye, qui arrivait auprès de Abaye, à Marlé, et donc il a dit à Abaye, Nirze Limor Khatimot Yade, que Vous pouvez me montrer votre signature, donc me l'écrire quelque part sur un bout de papier. Derriatoura banan mahvouli, mais avran alehu belomirsa. Quand les sages ils vont venir et ils vont me montrer que vous signez comme quoi ils n'ont pas besoin de payer d'impôts, alors je les laisserai quitte des impôts. Ahvele beresh megilta. Abaye, il a écrit sa signature tout en haut d'un papier. Avec un agilbe. Et ce récepteur d'impôts, il essayait de tirer un peu le papier pour que Abaye écrive la signature plus bas, laisse un espace. Amarle, alors Abaye lui a dit Kvar kadmuch rabanan. Les sages t'ont devancé, ils nous ont enseigné qu'on ne peut pas faire de cette façon. Ils ont compris ce que des gens comme toi risquaient d'agir et ils nous ont dit qu'il faut signer tout en haut. Amar Abaye, dit Abaye, mitlat ve'ad eser, lorsqu'il faut écrire un montant dans un shtar, dans un acte écrit, dans une reconnaissance de dette par exemple, quand on écrit depuis 3 jusqu'à 10, on parle en araméen ici. Mitlat ve'ad eser. En hébreu aussi, sûrement, ça doit être la même chose. Alors, depuis 3 jusqu'à 10, lo lirtov besof shita. Il ne faut pas écrire ça à la fin de l'une ligne. Parce qu'on écrit plusieurs lignes, il y a des lignes qui se suivent. Des fois, le mot, quand on écrit une ligne, le mot, il ne finit pas collé au bout du papier. On écrit une ligne, il reste des fois un petit espace jusqu'au bout du papier. Maintenant, si par exemple, on va écrire klat, qu'il lui doit klat, 3 pièces d'or. Tlat. En 30, c'est tlatine. Donc, c'est le même début, tlat. Il faut rajouter yudnun. Ou alors, il va écrire ça sur tous les chiffres, jusqu'à 10. Eser, c'est 10. Et esrin, c'est 20. Donc, on dit que tout. Maintenant, 2, c'est tré. Et 20, c'est esrin. Donc, il n'y a pas tréin, ça n'existe pas. Trin, ça n'existe pas. Donc, 2, ce n'est pas un problème. 1 et 2, khad aussi. C'est pas un problème. Mais s'il y a écrit de 3 jusqu'à 10, faut pas écrire le montant à la fin de la ligne. Dilma Mezayev et Kataf, de peur que celui, donc par exemple le prêteur qui a entre ses mains la reconnaissance de dette, il risque de rajouter encore des lettres en plus et comme ça voler à l'emprunteur. Maintenant, s'il s'avère qu'en écrivant le shtar, la reconnaissance de dette, qu'on écrit au départ, on voit qu'on arrive à la fin de la ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, faut continuer encore. On va pas commencer à barrer. On va pas aussi peut-être dire publiquement qu'on craint que le prêteur il va voler. On a toujours une petite crainte. C'est pas qu'on on fait confiance de manière générale à chacun, mais on a une obligation de ne pas mettre d'embûche devant quelqu'un et de ne pas mettre quelqu'un dans une situation où il pourrait voler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut encore une fois réécrire à nouveau le montant plus tard. Une deuxième fois, une troisième fois, réécrire plusieurs fois dans le texte combien c'est le montant, jusqu'à qu'une des fois, ça va tomber que le montant ne sera pas à la fin de la ligne, mais au milieu. Veitramele, c'est ce que dit Agmara, donc si ça arrive que le montant de chiffre entre 3 et 10 il se trouve à la fin de la ligne, niadrele dibure trent latazim. Il faudrait essayer encore de reparler, d'écrire le montant à nouveau, 2 ou 3 fois. Et c'est sûr qu'une fois, ça arrivera que c'est au milieu de la ligne, ça ne va pas toujours être à la fin de la ligne le montant. Diaimara, Haoud avec Tivbe, Tiltab et Pardissa. Il y avait quelqu'un que c'était écrit, donc un acheteur, il avait un acte de vente dans sa main, comme quoi il avait acheté un terrain, et il avait écrit qu'il avait acheté le tiers du verger. C'est-à-dire quelqu'un, il avait un grand jardin, dans son jardin il y avait un verger, et il a vendu le tiers du verger. Maintenant, l'acheteur, il avait donc une preuve qu'il a acheté le tiers du verger. Qu'est-ce que l'acheteur, il a fait? Il a rajouté. Il a dit, il a rajouté le. Alors, c'est comment on écrit d'abord ça? Comment on écrit le tiers du verger? On écrit tilta, c'est ce qu'on dit tout de suite à l'agma, tilta c'est le tiers. D'avec tivbe, il y avait écrit dessus, tilta bepardissa, tilta le tiers, bepardissa, du verger. Maintenant, le tilta c'est le tiers, bepardissa c'est du verger. Le bête de bepardissa, il a gratté un petit peu, de fait que c'était noté comme après, il a laissé que si c'était écrit un vav. Il a enlevé le bout du bête en bas, le pied du bête, le haut, les deux côtés du pied du bête. Il a enlevé le haut du bête qui va un peu plus. Qui est un peu trop long pour être un vav. Et donc il a laissé comme ça un vav. Et ça avait l'air quoi? Ça avait l'air qu'il avait écrit maintenant un tiers. Au lieu d'écrire un tiers du verger, il a écrit un tiers et le verger. Vav c'est et, B c'est du. Donc là, il avait écrit, au lieu d'écrire un tiers du verger, c'est un tiers et le verger. C'est comme si ça se comprend qu'il a vendu un tiers du jardin plus tout le verger. Alors qu'en réalité, il a vendu seulement un tiers du verger et pas du tout du jardin. Azal marqué. Donc l'acheteur, il est allé, il a effacé les gaguets des bêtes, le toit du bête, Vekar et aussi le pied, comme on a expliqué, Veshavia, Vepardissa. Et il a rendu, au lieu que c'était écrit Bepardissa, avec un bête au début, c'est écrit maintenant Vepardissa, avec un vav au départ. Et ça se comprend donc, un tiers de quelque chose, du jardin donc, et le pardès et le verger entièrement. Atalekamede Abaye. Maintenant, bien sûr, après, il y a eu un conflit entre l'acheteur et le vendeur, et ils sont allés voir Abaye. Amar le Abaye, il a bien observé ce qui était écrit sur l'acte de vente, et il a vu que le vav, il était éloigné du mot pardès. Alors, il a dit, pourquoi c'est éloigné? Abaye, il a compris que c'était écrit un bête au départ, et que ça avait été effacé. Et en plus de ça aussi, du mot d'avant, c'était éloigné du mot d'avant, puisqu'il y avait le petit espace qu'il faut mettre en plus pour le bête. Atalekamede Abaye, il est allé voir Abaye. Amar le Abaye lui a dit, Maitamar revich le alma le hay vav. Pourquoi ce vav, il a tellement de place autour de lui? Kaftevod. Et donc il a forcé cet homme-là à avouer ce qui s'était passé, et cet homme-là, il a avoué ce qu'il avait fait, cet acheteur. Autre histoire, Aoud avec Tivbe. Il y avait quelqu'un où c'était écrit, donc dans son acte de vente, quelqu'un qui avait acheté, il y avait plusieurs enfants, un homme qui était décédé, il avait fait hériter à tous ses enfants, et il y a deux des enfants qui ont vendu la part qu'ils ont reçue, qu'ils ont héritée d'un champ du père. Donc ils ont hérité du père, avait un grand champ, il y avait, on va dire, trois enfants, ou quatre, ou cinq, ça change pas. Et il y a deux des enfants qui ont écrit, qui ont vendu leur part à un acheteur. Maintenant, dans l'acte de vente, il y a écrit que l'acheteur, il a acheté la part de Réhouven et Shimon, qui sont des frères. Réhouven et Shimon, donc il a acheté la part de Réhouven et Shimon, des frères. Qui sont des frères. Maintenant, Réhouven et Shimon, les vendeurs, les héritiers, ils avaient encore d'autres frères et ils avaient un frère qui s'appelait Ahi. Ahi, ça veut dire frère. Mais c'était le prénom de cet homme-là, de ce frère. Et donc, l'acheteur, ce qu'il a fait quand il avait écrit dans l'acte de vente, comme quoi qu'il venait d'acheter la part de Réhouven et Shimon, qui sont des frères, Réhouven et Shimon Ahé, lui, il a rajouté vav, un vav en plus, c'est-à-dire et, comme quoi s'il a acheté la part de Réhouven et de Shimon et de Ahi, du troisième frère. Regardons dans les mots. Aoud avec Tibbe, Menat, Réhouven, Shimon, Ahi, avec quelqu'un où c'était écrit dans l'acte de vente qu'il possédait, qu'une preuve qu'il avait acheté, la part de Réhouven et de Shimon, qui sont des frères. Aveleu, Ahad et Shmeahi, et ils avaient un autre frère qui s'appelait Ahi, qui s'écrit la même chose. Azal Kataf B Vav. Alors l'acheteur, il a rajouté un Vav en plus, comme quoi, et aussi la part de Reuven Shimon, et aussi la part de Ahri. Veshavie ve Ahri. Et il a rendu l'acte de vente comme s'il est écrit et Ahri. Maintenant, il n'y avait pas beaucoup d'espace entre Reuven Shimon, Ahri. Reuven ve Shimon, Ahri. Donc entre Shimon et Ahri, il y avait un petit espace. Atal et Kamede Abaye. Il est allé voir Abaye. Donc ils se sont disputés. Le frère qui s'appelait Ahri, il a dit, moi j'ai jamais vendu ma part. Ils sont allés voir Abaye. Amarle, alors Abaye, il a regardé et il a vu qu'il y avait un tout petit espace entre Shimon et Ve'ahri, et le nom du troisième frère. Donc il a compris qu'en réalité, il avait écrit juste Reuven et Shimon Ahri, Reuven et Shimon qui sont des frères. Et lui, il a rajouté Ve'ahri, comme quoi Reuven et Shimon et Ahri, le nom du troisième frère. Donc, Ata et Kamed Abaye, il allait voir Abaye, Amarle, il lui a demandé, Maïtamada Hikle, Alma, le Hai, Vav, Kule Hai. Pourquoi il est tellement serré ce Vav-là? Kafte, VOD, il l'a forcé à avouer et il a accepté. Et cet homme-là, il a avoué ce qu'il avait fait. Raconte à Gemara encore une autre histoire. Aouchtarad, Hadim, Ale, Rava, Verava, Habar, Ada. Il y avait un shtar, une reconnaissance de dette, par exemple, un acte de vente, où il y avait comme signature la signature de Rava et de Rava, Habar, Ada. Atal et Kamé de Rava. Alors ils sont allés voir auprès de Rava. Il y a eu une dispute entre celui qui devait, le propriétaire du shtar, et le propriétaire et l'autre, quoi. Par exemple, entre le prêteur et l'emprunteur, ou alors l'acheteur et le vendeur. Le vendeur, il dit, moi j'ai jamais vendu. Alors l'emprunteur, il dit, j'ai jamais emprunté de l'argent. Ils sont allés voir Rava, qui était un des témoins. Amar les Rava, il a dit, Den Khatimot Yada Didihi. Ça, effectivement, c'est ma signature. Je reconnais mon écriture. Miou, Kame de Ravaha Bar Ada, Lo Khatimili Mirolam. Mais je sais que je n'ai jamais signé avec Ravaha Bar Ada. Il y a là, ici, il y a écrit que j'ai signé, et il y a Ravaha Bar Ada. Maintenant, moi, effectivement, je reconnais ma signature. Je ne me rappelle plus d'histoire. Ravaha, il devait signer de plein de cas. Donc, il ne se rappelait plus de tous les cas. Mais c'est ma signature, je confirme que je reconnais ma signature. Par contre, je sais que je n'ai jamais signé avec Ravaha Bar Ada. Bar Ada, et je me serais rappelé. Hein, Gadol Ador, j'avais signé avec un grand Gadol, un grand Rav, je me serais rappelé. Donc, Kafté, VOD. Il a forcé à dire qu'est-ce que c'était, et cet homme-là, il a avoué qu'il avait falsifié les signatures, parce que quelqu'un de, entre guillemets, ce qu'on peut appeler de cette façon très professionnel, un faussaire professionnel, il peut aussi falsifier des signatures de manière exacte. Alors Ravaha lui a dit, moi j'arrive à comprendre, j'ai une écriture à peu près normale, tu as signé comme moi, tu as utilisé ma signature, tu as recopié ma signature, je suis très fort pour recopier, ok. Amarle lui a dit, Bishlama, Didi, Zayafta. Je comprends que moi, tu as falsifié ma signature. Et là, des Rav, Ahabar Ada, des Ratit, Yadehere Avadta. Mais Rav Ahabar Ada, lui, il a une main qui tremble. Alors, sa signature aussi, elle tremble. Je vois que tu as recopié sa signature, une signature qui tremble. Comment tu as fait ça? Amar, alors cet homme, il a dit, An Heyadai, Ametsara. J'ai posé ma main pour signer, Ametsara. Ametsara, c'est une corde qu'ils utilisaient. Lorsqu'ils avaient un pont d'un côté à l'autre du fleuve, et pour passer sur le pont, ils utilisaient comme barrière, ils mettaient une corde qu'ils étendaient d'un côté à l'autre côté. Maintenant, une corde qui est étendue, elle bouge un petit peu. Quand on s'appuie dessus, elle bouge un petit peu. Donc lui, il a mis sa main dessus. Comme ça, sa main, il tremblait, et en même temps, il a signé. Vamre, là, il y en a qui disent qu'il a réexpliqué autrement, que ce qu'il a fait, c'est Kam Azarnoka. Il s'est mis sur la poulie, là où il y a la poulie du puits, et donc, il n'y avait pas juste sa main qui tremblait, mais tout son corps qui tremblait, et alors il a signé de cette façon, Vekatav, et il a signé. En tout cas, c'est pour nous dire que même des cas où ça a l'air que c'est sûr que ça ne peut pas être falsifié, des fois, c'est possible, il y a toujours des falsifications qui peuvent arriver, donc il faut être très très attentif. On arrive à la prochaine Mishnah, de la Mishnah, Kotvin, Get, La Ish, Afalpishen, Ishto, Imo. On peut écrire un acte de divorce pour le mari. Donc on rappelle que l'acte de divorce, c'est le mari qui donne à sa femme et comme ça le couple devient divorcé. Maintenant, on peut écrire l'acte de divorce au mari, même si la femme n'est pas là, n'est pas présente. Et parce que, entre guillemets, si de toute façon, d'après la loi de la Torah, il n'a pas besoin de demander son avis à elle. Et donc, s'il lui donne le. Il y a un Kherem de Rabbeinu Gershon que oui, il faut demander son avis. Mais d'après la loi à l'époque de la Mishnah, eh bien, il n'avait pas besoin de demander son avis. Donc, on peut lui donner un acte de divorce s'il veut, parce que s'il veut, il divorce. Et s'il veut, et s'il divorce pas, il divorce pas. S'il donne à sa femme, il va divorcer. Autrement, il ne va pas divorcer. Il n'y a pas de risque. Ve'a Shovar Laisha. Et on écrit aussi un Shovar. Un Shovar, c'est une preuve de remboursement. Quand quelqu'un il divorce sa femme, il doit lui payer de l'argent. Et donc la femme, elle lui donne à ce moment-là, elle peut lui donner un shovar, une preuve de remboursement. Ça, on l'écrit, on le donne à la femme, à Falpichen, Balaïma, même si le mari n'est pas présent. Parce que c'est elle, entre guillemets, tout le risque, c'est elle qui prend le risque. Lui, si elle est prête à prendre ce risque d'avoir chez elle un shovar qui va être écrit, même si elle ne s'est pas fait encore rembourser. Et après, elle lui donnera lorsqu'elle se fera rembourser. Ubilvad shiye makiran, mais à condition que le scribe qui écrit tout ça, l'acte de divorce ou alors la preuve de remboursement, où est les témoins, eh ben ils connaissent le. On verra exactement qui doit connaître, le mari, la femme, de quoi il s'agit. La Gemara elle parlera de ça, Bezrat Hashem. Maintenant, qui doit payer? Vea Baal noten sachar. C'est le mari qui doit payer le scribe pour l'acte de divorce et pour la preuve de remboursement. Alors la preuve de remboursement, on comprend bien parce que c'est le mari qui est content d'avoir une preuve qu'il a remboursé. Mais pourquoi l'acte de divorce, c'est le mari qui doit payer la totalité de l'acte de divorce? On verra dans la Gemara Bezrat Hashem pourquoi. On continue à Mishnah, il nous dit: Kodvin shtar la lové afalpi she'en malvé imo, ven kodvin la malvé atchiyé lové imo. On peut écrire une reconnaissance de dette à l'emprunteur, c'est-à-dire une reconnaissance de dette, c'est une preuve que le prêteur, il a prêté de l'argent à l'emprunteur. On ne peut pas, si un prêteur il dit, voilà, moi j'ai prêté de l'argent à un tel, écrivez-moi une reconnaissance de dette, on ne peut pas écrire, peut-être ce n'est pas vrai. Donc si on n'a pas vu ce qui s'est passé, on peut pas écrire. On peut pas lui signer comme quoi effectivement il a prêté de l'argent. Mais on peut, si un emprunteur il dit, voilà, un tel il veut me prêter de l'argent, écrivez-moi une reconnaissance de dette qui m'a prêté de l'argent. Moi je prends le risque. Et après je vais aller prendre l'argent et je lui donnerai la reconnaissance de dette. Il y a toujours un petit risque que cette reconnaissance de dette, elle va tomber par terre, elle va être perdue. Et le prêteur, il va la trouver, il va l'utiliser pour voler de l'emprunteur sans avoir prêté de l'argent. Il va lui dire, voilà, je t'ai prêté de l'argent. Donc là, on peut écrire à l'emprunteur, on peut écrire une reconnaissance de dette, même si le prêteur n'est pas là. Par contre, l'inverse, non. Ven codvin la malve achiye lo veimo. Mais on n'écrit pas une reconnaissance de dette pour le prêteur, en lui donnant au prêteur, sauf si l'emprunteur est là et est d'accord. Va lover noten zara. Maintenant, quand on écrit une reconnaissance de dette, c'est qui doit payer le scribe? C'est l'emprunteur. La Gemara, elle demandera, c'est évident. Elle expliquera ce qu'on nous dit. C'est parce que c'est l'emprunteur qui gagne de ça. Le prêteur, lui, qu'est-ce qu'il fait un prêt? Il paye de l'argent, c'est fini. La Gemara expliquera. Continue la Mishnah, elle nous dit. Bezrat Hashem. Kodvin, shtar la mocher, afalpi, shien lo keahimo. On écrit une preuve, un acte de vente que l'on donne au vendeur. Comme quoi, une preuve qu'il a vendue. Bien que l'acheteur n'est pas présent, donc on parle d'un cas où un acte de vente qui prouve que un tel il a vendu son terrain, donc on le donne ça au vendeur, même si l'acheteur n'est pas présent, puisque le vendeur ne gagne rien de ça. Il n'y a pas écrit que l'acheteur il doit de l'argent au vendeur, sinon on ne peut pas se permettre d'écrire ça. Juste que le vendeur il a vendu son terrain à un tel. Donc on lui donne ça au vendeur, même si l'acheteur n'est pas présent, parce que c'est entièrement pour le vendeur. Ven kodvin la lokar, achiye mocherimo, mais on n'écrit pas d'acte de vente pour l'acheteur que si le vendeur est présent. Maintenant, dans le cas d'une vente qui doit payer le prix de l'acte de vente, le scribe, ben alors car noten sahar, c'est l'acheteur qui doit payer le scribe. Continue la Mishnah et dit, En kodvin shitre irus, shtare irusin venesuin, on n'écrit pas d'acte écrit de irusin venesuin de fiançailles. De quoi s'agit-il? On parle des engagements des deux parties, des parents du marié, des parents de la mariée, qu'est-ce qu'ils engagent à donner pour le couple. Et la midat shnehem, on écrit ça que si les deux sont là présents et sont d'accord de cet engagement. Maintenant, c'est le marié, lui, qui est le gagnant, entre guillemets, qui gagne dans cette affaire-là, c'est lui qui doit payer le scribe. En kodvin shtar arisut ve kablanut et la midat shnehem. On n'écrit pas de shtar arisut d'un acte qui prouve qu'il y a un risout de métayer et kablanout ou de location d'un terrain. Un risout, c'est un métayer, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler et gagner des pourcentages. Il va travailler dans un terrain et gagner des pourcentages et donner des pourcentages au propriétaire du terrain. Kablanout, c'est qu'il paye une somme fixe par année. Ça, on n'écrit pas Elamidat Shnehem que s'il y a l'accord des deux, du propriétaire du champ et de celui qui va travailler, va mekabel noten sahar. Et celui qui prend sur lui de travailler dans le champ, eh ben c'est lui qui doit payer le scribe. En kodvin, fini la Mishnah, il nous dit, en kodvin, shtre birurin, vechol maase bedin, ela midat shnehem. Veshnehem notnin zahar. On écrit des preuves, des actes de birurin. Birurin, c'est que de. Qu'on met au clair la chose. La Gemara, elle expliquera de quoi il s'agit. Et aussi, toute chose qui se fait, tout acte écrit, comment le tribunal, tout acte qui vient du tribunal, on écrit ça, Elamidat Shnehem, que si les deux ils sont au courant de ce qu'on est en train de faire, mais Shnehem Nodnin Sahar, et ce sont les deux qui sont en train de discuter sur l'affaire, qui doivent payer le scribe. Donc on parle qu'on écrit là, un seul acte, quand le tribunal il va dire quelque chose et en faveur des deux, eh ben, que, hein, il y a des conditions qui sont bien pour l'un, des conditions qui sont bien pour l'autre, alors on écrit un acte écrit, et on le donne, et pour les deux, ils payent moitié-moitié le scribe. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Shnehem, on dit Shnehem d'après des versions, Shnehem Kotvim Shnaim, les deux témoins, ils vont écrire, les deux mêmes témoins qui signent pour. On écrit deux actes écrits dans cette histoire-là, quand il y a une discussion et le tribunal il va trancher d'une certaine manière en faveur de l'un et de l'autre, ça dépend, il y a des intérêts pour l'un et pour l'autre. On va écrire deux actes écrits, l'azela atzmo, chacun on écrit séparément et chacun paye séparément ce qui lui revient. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'on a vu au début de la Mishnah? on a dit que quand on écrit un acte de divorce ou alors une preuve de remboursement comme quoi le mari il a dû payer la ktouva qu'il doit à sa femme, il faut connaître, il faut les connaître. Le sofer, le scribe et les témoins doivent connaître. Qui doivent connaître? Makiran. C'est quoi ce qu'on a dit à condition que le scribe, les témoins le connaissent? Amar Rav Yehuda, Amar Rav di Rav Yehuda au nom de Rav, Ubilvad chiyeh makir shem ha'ish beget veshem ha'isha beshovar. Ce qu'on a dit qu'il faut les connaître, ça veut dire qu'il faut connaître le nom du mari dans le cas de l'acte de divorce. Donc on écrit un acte de divorce pour le mari si on sait que c'est vraiment son nom. Quelqu'un il arrive, il dit voilà, je veux divorcer ma femme. Si on ne le connaît pas, si on ne sait pas que c'est son nom, on ne peut pas lui écrire un acte de divorce. C'est que si on sait que c'est vraiment lui, il nous dit, il s'appelle un tel fils d'un tel, on sait que c'est lui, alors on peut lui écrire pour lui un acte de divorce. Et aussi, on écrit une preuve de remboursement à une femme qui nous demande qu'on amène une preuve, qu'on écrive une preuve de remboursement que quoi son mari lui a remboursé la ktouva, que si on sait que c'est le nom de la femme elle-même. Pourquoi? D'abord le premier cas. Est-ce qu'on écrit que l'acte de divorce au mari, on lui écrit que si on connaît que c'est vraiment ce mari, c'est effectivement son nom à lui, parce qu'on craint que sinon, peut-être en vérité, il y a quelqu'un d'autre qui a le même nom que lui, et ce mari, il écrit pour, en vérité, pour l'autre couple, pour l'autre femme, la femme d'une autre personne qui a le même nom que lui. Donc lui, il s'appelle Réhouven, par exemple, et il va demander d'écrire un acte de divorce pour Réhouven, et lui, il s'appelle Réhouven et sa femme, elle s'appelle Sarah. Et il y a un autre couple qui s'appelle Réhouven et la femme, elle s'appelle Léa. Alors maintenant, lui, il va demander, il arrive et il dit, écrivez s'il vous plaît un acte de divorce pour moi. Je m'appelle Réhouven et ma femme, elle s'appelle Léa. Ce n'est pas vrai, sa femme, elle s'appelle Sarah. Il dit, ma femme, elle s'appelle Léa. Et après, on va écrire dans un acte de divorce si on connaît que lui. On va écrire un acte de divorce comme quoi Réhouven, il va divorcer sa femme Léa. Et lui, il va donner à la femme de l'autre Réhouven. Donc ça veut dire que cette femme, elle aura une preuve qu'elle a été divorcée alors qu'en réalité, elle n'a pas été divorcée puisque pour être divorcée, il faut qu'elle reçoive un acte de divorce de son mari, pas de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça. Excusez-moi, j'ai un peu devancé la suite. La crainte qu'il y a, c'est que si on ne connaît pas le nom du mari, alors on craint que le mari, il s'appelle, il arrive et il demande pour quelqu'un d'autre, il veut aider une femme à être divorcée, une femme que son mari ne veut pas lui donner d'acte de divorce, et donc il arrive et il va prétendre qu'il s'appelle comme quelqu'un d'autre. Mais en vérité, c'est pas son propre prénom à lui. Donc faut connaître le prénom du mari, et faut connaître de celui qui vient nous demander d'écrire l'acte de divorce, et après on lui donne l'acte de divorce. Après, la Guimara, elle va demander, mais donc justement, le problème qu'on a soulevé, c'est un autre problème. La Guimara, elle va demander, mais même si on connaît le prénom du mari, mais peut-être c'est pas le prénom de sa femme. Il est en train de divorcer, comme on est de prendre un acte de divorce pour une autre femme qui est mariée avec un mari qui a le même prénom que lui. C'est ce qu'on verra dans la suite. Et pourquoi il faut écrire aussi l'acte de. Il faut connaître la femme, que c'est bien le prénom de la femme qui est en train de nous demander une preuve de remboursement. Parce que peut-être, si on ne connaît pas le prénom de sa femme, peut-être cette femme qui arrive, en vérité, elle veut donner à un certain mari, elle vient et elle demande pour un autre couple, avec des noms que ce n'est pas du tout son nom à elle, elle demande une preuve de remboursement pour quelqu'un d'autre, et après, elle va le donner à un autre mari, à un mari, pas le sien à elle, et le mari, il aura une preuve qu'il a payé la ktouva de sa femme, alors que ce n'est pas vrai. Point. Donc, il faut connaître le nom du mari dans un cas d'acte de divorce. Pour écrire un acte de divorce, il faut connaître le nom de la femme pour le chovar, pour une preuve de remboursement. Raconte la Gemara, Yaretiv Rav Safra Veravacha Baruna. Rav Safra, il était assis, ainsi que Ravacha Baruna, Veravuna Bachinena, ainsi que Ravuna, le fils Bachinena, Veativ Abaye Gabayhu. Et Abaye était assis auprès d'eux, Veatve Vekami Bayalehu. Et ils étaient assis, et ils ont demandé à Abaye, Shem Haish Beget In, Shem Haish Alo. Quoi, il suffit de connaître le nom du mari pour écrire un acte de divorce. On sait que c'est effectivement lui le mari, mais on a besoin de connaître le nom de sa femme. Shem Aisha Beshovar In, Shem Aishlo. Quoi, on a besoin juste de connaître le nom de la femme quand elle vient nous demander une preuve de remboursement, mais pas besoin de connaître le nom de son mari à elle, à cette femme. Pourquoi? Il y a toujours une crainte que même si effectivement on connaît que c'est le nom du mari pour l'acte de divorce, on sait que c'est le nom de la femme pour la preuve de remboursement, peut-être qu'ils sont en train de demander pour quelqu'un d'autre qui a pour une femme, par exemple, le mari il demande, il veut donner cet acte de divorce à une femme, une autre femme qui n'est pas la sienne, qui a pas le même prénom que sa femme, Mais si on ne connaît pas c'est qui sa femme, il vient nous dire un prénom qu'on ne connaît pas. Et il va mener cet acte de divorce à une femme qui a le même que le mari de cette femme-là. Il a le même prénom que lui. Donc même si on connaît son prénom à lui, il y a toujours une crainte que peut-être il va donner l'acte de divorce à une autre femme et il va nous dire d'autres noms pour le nom de la femme, pas le nom de sa femme à lui. Et aussi le même doute qui peut exister dans le cas de la preuve de remboursement si on connaît que le nom de la femme. Velichush, dit Agmara, on n'a qu'à craindre. Il m'a katav gita ve'azil. Ou mamteleleiteta, dehar, peut-être qu'il va écrire un acte de divorce. Il va aller, il va donner l'acte de divorce à une femme de quelqu'un d'autre qui a le même prénom que lui. Donc même si on connaît son prénom à lui, ça suffit pas si on connaît pas le prénom de la femme. Continuons. Vezimnin, azla, katvaisha, shovar. Il y a aussi ce risque qui existe si la femme, elle va écrire une preuve de remboursement avec le nom d'un autre mari, pas le mari qui est le sien. Et elle va le donner à un autre homme qui a une femme, qui a divorcé sa femme, qui avait le même prénom qu'elle. Et elle va le donner à un mari qui n'est pas le sien, mais qui a une femme qui a le même prénom qu'elle. Point. Amar le Abaye, alors Abaye leur a dit, Ari Amarav n'ayez crainte, ainsi Rav a dit, Shem Aish Beget, Vuadin, les Shem Aish, il faut écrire le nom du mari dans le cas d'un acte de divorce, et aussi écrire, il faut connaître le nom du mari pour lui écrire un acte de divorce, mais il faut connaître, c'est aussi le prénom de sa femme. Shem Aisha Beshovar, Vuadin les Shem Aish, il faut connaître le prénom de la femme dans un shovar, dans un acte écrit, et une preuve de remboursement. Et aussi, il faut savoir que c'est ça le nom du mari. Effectivement, il faut connaître les deux noms. Demande là, il m'aura une autre question. Mais comment on peut se permettre d'écrire, voilà, on connaît que c'est le prénom du mari, on connaît que c'est le prénom de la femme, et on va écrire au mari un acte de divorce, il nous demande, il dit, il veut divorcer sa femme, il veut qu'on écrive un acte de divorce. Peut-être qu'il y a un autre couple, que le mari et la femme, les deux, ils ont le même nom que eux. Velirush, les Shnei Yosef Ben Shimon, Hadarim Beirachat, on n'a qu'à craindre peut-être qu'il y a deux Yosef Ben Shimon qui habitent dans la même ville. Et il faut craindre, Dilma Ktiv Gita, Ve'azil, Umamte Leleitete, Lehar, peut-être qu'il va écrire l'acte de divorce, lui, il va demander d'écrire un acte de divorce, mais il ne va pas donner cet acte de divorce à sa femme, il va le donner à la femme de à l'autre femme. C'est-à-dire, elle lui a promis de l'argent, j'en sais rien, ils se sont arrangés. Et il lui a promis et il va donner l'acte de divorce à l'autre femme, et l'autre femme, elle va arriver avec un acte de divorce, voilà, comme quoi elle a été divorcée, et ce n'est pas vrai. Amarleo Ravaha Baruna, il a dit, Achyamarav, ainsi Ravuna, ainsi Rav, il a dit, s'il y a deux personnes qui s'appellent Yosef Ben Shimon, c'est un exemple, c'est-à-dire, c'est l'exemple sûrement que c'est un exemple qui devait exister, hein, qui s'appelait Yosef Ben Shimon et qui avait le nom de leur femme aussi la même chose. Donc, deux personnes qui ont le même prénom, qui habitent dans la même ville, ils ne peuvent pas divorcer leur femme que si l'un se trouve devant l'autre, quand ils sont présents tous. Donc, comme ça, il n'y a pas de crainte qu'il va prendre l'acte de divorce, il ne pourra pas le donner il va recevoir l'acte de divorce, il ne pourra pas le donner à la femme de l'autre, puisque l'autre, il va dire, c'est quoi cette histoire? Et tout le monde va voir que ce n'est pas juste. Donc, il devra donner que à sa femme. Point. Demande la Gemara une autre crainte. Velichush Dilma Azil Lemata Harita ou Marzik Leleshme Beyosef Ben Shimon. Dit la Gemara, on n'a qu'à craindre. Bekadiv Gita ou même Telele Itetadehar. Demande la Gemara, on n'a qu'à craindre que peut-être, voilà, on voit quelqu'un maintenant qui s'appelle Yosef Ben Shimon. Il arrive dans une ville, il s'appelle Yosef Ben. Comment tu t'appelles Yosef? C'est le nom de ton père, c'est mon père, Avi, Mori, Shimon. Il s'appelle Yosef, fils de Shimon. Très bien. Après 2 semaines, il arrive au tribunal. Il dit, est-ce que vous pouvez m'écrire un acte de divorce, s'il vous plaît? Ils vont lui écrire un acte de divorce. Il s'appelle Yosef Ben Shimon. Après, cet homme-là, il va arriver, il va repartir dans sa ville. En vérité, il s'appelait pas Yosef Ben Shimon, il s'appelait Reuven Ben Yaakov. Il va arriver dans sa ville et il a un acte de divorce comme quoi Yosef Ben Shimon, il a divorcé sa femme. Et il va donner, il connaît quelqu'un d'autre qui s'appelle Yosef Ben Shimon et qui a une femme qui s'appelle comme la femme d'un tel. Et il va lui donner à cette femme la preuve qu'elle a été divorcée. Donc comment on peut faire cette chose-là? Donc, Dilma Azil le Mata Harite, peut-être qu'il va aller dans une autre ville, ou Marzik le Lishme Yosef Ben Shimon, il va dire qu'il s'appelle Yosef Ben Shimon, Vekativ Gita, ils vont écrire un acte de divorce en pensant qu'il s'appelle effectivement Yosef Ben Shimon, ou Mamte Leleitetedéar, et après il va repartir dans sa ville, il va donner, je ne s'appelle plus Yosef Ben Shimon, il va revenir dans sa ville, il sait, tout le monde sait, il s'appelle Reuven lui, et il va donner l'acte de divorce en cachette à cette femme-là, et elle va avoir une preuve qu'elle a été divorcée par un certain Yosef Ben Shimon, par son mari, on va penser. Répond la Gemara, Amar Leu Ravuna Bachinena, Ravuna Bachinena, il leur a dit, Hari Amar Rav, voilà comment Rav il a dit, Kol Shiurzak Shmo Ba'ir Shoshim Yom, En Choshishin Lo. Si on sait que son nom, il est appelé, on sait qu'il a tel nom, et pendant 30 jours déjà, on sait que c'est son nom, on ne craint pas une telle chose. C'est-à-dire, après 30 jours, on dit, genre, mais quelqu'un qui est un menteur, il ne va pas attendre tellement de temps pour prouver qu'il s'appelle son nom-là. Et après un certain temps, il va pas tellement essayer de se faire passer pour un menteur, et pas juste ça, mais on risque de l'attraper. Il y a des gens, il a peur de se faire attraper par des gens. Il risque pas de rester 30 jours pour prouver qu'il s'appelle tel ou tel nom, parce qu'il craint qu'à tout moment, qu'il y a des gens qui risquent de venir et de lui dire, mais non, on sait que tu t'appelles autrement. Donc s'il est resté pendant 30 jours, il a appelé sous un certain prénom, on ne craint pas qu'il avait peut-être un autre prénom et qu'il est en train d'essayer de faire un acte de divorce pour quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas encore eu le temps de 30 jours, il n'y a pas encore eu 30 jours. Ça fait 20 jours qu'il est sur place. Qu'en est-il? On ne peut pas lui créer un acte de divorce? Amar Abaye dit Abaye, on vérifie. On vérifie son prénom. Comment on peut vérifier? Des caroulés vers Ané. On l'appelle et on voit s'il répond. Si quand on l'appelle, il tourne la tête, on l'appelle, on dit Hey Yosef! Et il regarde, il tourne la tête. Alors c'est que effectivement c'est lui qui s'appelle Yosef Ben Shimon. Mais si on essaye de dire que on l'appelle et il répond pas, alors c'est un problème. Diaymara, Rav Zevid Amar, par contre, Rav Zevid, il dit, Rama'a beramo utezahir. Quelqu'un qui est un faussaire, et il fait très attention à ce qu'il est en train d'essayer de tromper les autres, et même si on va l'appeler Yosef, il va tourner la tête parce qu'il a dans sa tête qu'il faut qu'il s'appelle Yosef. Donc on n'a pas le choix que d'attendre 30 jours d'après Rabbi Zera, d'après Rav Zevid, et de vérifier qu'il est resté. Qu'il garde avec son prénom, et alors on pourra savoir que c'est effectivement son vrai prénom. Voilà, on va s'arrêter ici. Bezrat Hashem. On verra la suite de l'Edav de demain. Passez une bonne journée. Be'atzlacha et à bientôt.